Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Grand Ciel, en présence de Simon qui nous accompagne en régie et de Cécile Rochès, praticienne et formatrice bien-être. Elle est également guérisseuse et coach en acceptation de soi. Et donc j'ai fait cette connaissance au cours d'une formation pour entrepreneurs et j'ai appris à apprécier. J'aimerais vous la faire découvrir.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous.
Donc vous allez découvrir aujourd'hui un domaine tout autre que celui sur lequel nous avons échangé le mois dernier, parce qu'aujourd'hui j'ai envie de vous faire voyager un peu, que ce soit l'histoire dans le monde ou aussi dans notre imaginaire, le pays des rêves, pour ceux qui ont accès, bref, un peu tous les plaisirs envoûtants, enfin dans le bon sens du terme, hein, je précise. Je veux dire, ce qui nous fait du bien à l'âme et nous apporte un petit peu de douceur dans notre monde parfois trop dur. Donc, c'est pas cette recherche de fuite qui peut parfois rassurer certains, mais vraiment ce monde de douceur et de bien-être qui peut nous réconforter et nous réchauffer. Donc, comme le mois dernier où j'avais à cœur de vous partager les secrets d'une éducation apaisée, je voudrais vous faire ce voyage dans ce monde pour plus de paix en nous. Mais avant toute chose, Cécile, tu peux te présenter rapidement à nos auditeurs?
Avec plaisir, Nathalie. Alors, j'habite actuellement à Grasse, dans le 06. Donc c'est le sud-est de la France, mais je suis née et j'ai grandi en Côte d'Ivoire, donc Afrique de l'Ouest. Mon père était enseignant là-bas et ma mère travaillait de temps en temps comme couturière.
Donc en fait, tu as une façon très différente de vivre, à nous partager en nous ouvrant, grâce à la connaissance, à une meilleure compréhension de l'autre. Enfin, cet inconnu qui parfois peut nous crisper.
Oui, c'est sûr. Il s'agit vraiment de modes de vie très différents et je peux témoigner que mon enfance en Afrique m'a vraiment apporté énormément de choses. Notamment, ce qui me paraît très important, c'est surtout le respect des gens, quelle que soit leur origine, leur religion ou leur âge, le respect de toute vie et la tolérance qui est très important là-bas.
Oui, parce que la France est un pays très généreux, c'est une terre d'accueil, une terre d'asile reconnue, mais en même temps c'est aussi une zone de souffrance parce qu'on se replie aussi sur soi, parce qu'on ne peut pas porter toute la misère du monde sur ses épaules, et l'équilibre entre le cœur et la raison peut s'avérer complexe. Donc, peut-être aussi parce que nos peurs peuvent surgir, on retrouve les émotions qui étaient au cœur de notre échange avec Marie-Pierre Lescure le mois dernier. Donc c'est ce besoin de sécurité qui s'exprime notamment.
Oui, c'est clair, les mentalités, les modes de vie ne sont pas du tout les mêmes. Par exemple, moi je passais mes après-midi enfant entre le cercle coopérant où je discutais beaucoup avec les adultes et on discutait beaucoup spiritualité. Mmh. Et l'autre partie de mon temps, c'est dans les villages africains qui étaient à côté, où je discutais avec les anciens et les guérisseurs, les guérisseuses.
Et donc, ce qui veut dire que là-bas, les adultes ouvrent leur monde aux enfants et les accueillent dans la bienveillance et l'enseignement.
Oui, et les anciens sont très proches de nous et nous enseignent beaucoup en Afrique. Mais pas qu'en Afrique, hein. Dans ma famille, c'était comme ça. Par exemple, ma grand-mère paternelle, depuis toute petite, elle m'expliquait que tout ce qui existait autour de nous a une énergie propre, même ce qui semble inerte comme une table ou un miroir. Mm-hmm. Et donc, il faut faire attention à tout et ne rien casser ni blesser, car on aura les retours. Donc, je me rends compte, en fait, avec le recul, que déjà, elle me transmettait beaucoup de choses, notamment sur les énergies universelles. Et elle me disait souvent que si je voulais quelque chose de très fort, je devais le demander à mon ange gardien en envoyant de l'amour et que j'aurais ce que je demandais si cela était juste pour mon évolution personnelle. Parce que bon, si c'est pas juste, il ne m'envoie pas.
Oui, bien sûr. Donc là, en fait, tu nous dévoiles un regard un peu différent de ce à quoi on a l'habitude. Personnellement, j'y suis très sensible parce que depuis toute petite, je suis reliée à mes émotions, à mes rêves que personne n'a pu pervertir, à l'espoir aussi qui guide mes pas et qui m'a aidée à traverser les épreuves les plus terribles de ma vie. Enfin, c'est toutes ces petites étoiles accrochées dans mon ciel qui me donnent de la lumière quand mon quotidien s'assombrit. Donc, certains me regardaient parfois avec un regard bizarre ou condescendant, mais maintenant, en tant qu'adulte, ce regard qui était souvent désapprobateur et que j'ai subi pendant mon enfance a changé aujourd'hui en regard admiratif ou envieux, et en me disant par exemple, mais comment tu fais pour garder toujours le sourire? Et donc, en fait, j'ai envie de partager ce secret du bonheur que j'ai aussi retrouvé en toi.
Oui, nous partageons effectivement... Très certainement, cette connexion au cœur qui est très importante et donc du coup, on est connecté aussi aux autres. Mm. C'est ce qui est difficile des fois. Et pour ma part, depuis toute petite, j'étais attirée à la spiritualité, je suis née dedans et surtout par une autre façon de soigner les gens. Ça, c'est important, surtout en Afrique, on est obligé parce qu'on n'a pas toujours accès aux médicaments comme en France.
C'est
et
sûr.
Du coup, ma mère faisait différemment, on faisait à l'ancienne, comme on disait, avec les plantes et puis d'autres solutions. Hein, c'est un peu, MacGyver. Mais ma mère soignait beaucoup avec des plantes, avec des huiles essentielles et surtout, elle m'a toujours encouragée à suivre mon intuition. Ça, c'était important.
Ouais. Bah, j'avoue que j'ai toujours été attirée par le monde de la santé. Enfin, moi, c'est mon grand-père qui était médecin, donc j'ai d'ailleurs la chance qu'il soit encore en vie aujourd'hui. Donc, je profite de l'occasion pour le remercier de tout ce qu'il m'a appris dans mon enfance, que ce soit sur les étoiles, la forêt, les arbres dont il était passionné, et tout son émerveillement pour les petits détails de la vie qui lui parlaient autant qu'à moi, alors que les autres disaient souvent, bon, tu nous saoules, ou bah quoi, pourquoi tu t'extasies, c'est banal. Bah, en fait, oui, le merveilleux est banal dans le sens où il peut toquer à notre porte tous les jours. Mais ce qui est triste, c'est que bien souvent, notre monde a oublié de s'émerveiller et de bénir le ciel des bienfaits quotidiens qu'il nous apporte.
Malheureusement, oui. La dernière fois, j'ai vu le commentaire ta fille à propos de la publication
Oui.
Facebook avec l'arc-en-ciel. C'était magnifique que tu nous partageais et même toutes les photos magnifiques dans la neige. Je trouve ça super que tu partages ça.
Oui, en tout cas, je suis bien heureuse des personnes à qui j'ai pu les offrir et qui ont pu s'en nourrir. Et j'imagine que ton enfance, du coup, était aussi pleine d'instants merveilleux.
Oh oui, c'est vrai. Autant en Côte d'Ivoire qu'en France, parce que j'alternais entre les deux. Et quand j'ai entré en France, je passais beaucoup de temps avec mes grand-mères, notamment avec ma grand-mère paternelle. Alors c'est vrai qu'elle était très croyante, mais elle était aussi guérisseuse.
D'accord.
Et elle me disait qu'on ne devait pas, surtout pas le dire, parce que les
Ouais.
gens ont peur des guérisseuses. Donc voilà, c'est comme ça. Et dès l'âge de 8-9 ans, j'ai commencé à la suivre pour apprendre ses techniques.
D'accord.
Et je me rappelle la première fois que je l'ai suivie, nous avons été au presbytère de la petite ville
D'accord.
pour soulager monsieur le curé qui avait fait une entorse dans son jardin, il l'avait glissé, et du coup il avait appelé ma grand-mère. Et elle lui a remis la cheville, enfin, dans le bon sens entre guillemets, hein, c'est ce qu'elle disait, et elle lui a donné des conseils pour faire des cataplasmes avec des plantes. Et quelques jours après, je crois 3 jours après, il est venu boire un café chez ma grand-mère, il n'avait plus rien, il ne boitait même plus.
Oui, donc d'où l'importance de partager la connaissance pour éloigner les peurs, car on voit bien dans cet exemple les bienfaits des guérisseurs. Tu me parlais aussi de ta grand-mère maternelle dont tu étais proche.
Oui, ma grand-mère maternelle, elle c'était différent. Elle passait son temps à me raconter des histoires du roi Arthur, de Brocéliande,
Ouais, super.
plein de contes comme ça. Et elle me montrait comment on pouvait soulager certains petits problèmes avec des plantes ou même avec des pierres. Souvent, elle me disait que les pierres avaient des vibrations propres à elle, vraiment personnelles à la pierre, et que ça aidait les hommes à être mieux.
Oui,
Et bien, parce que du coup, c'est démontré.
oui, maintenant c'est connu et reconnu. Et je rebondis un peu sur le lien. Je trouve que c'est quand même magique ce partage avec nos grands-parents parce que c'est la génération supérieure qui n'a plus la charge de notre éducation. Mais par contre, il y a celle de la transmission, le partage de savoir. Bon, bah, mes grands-parents pour moi étaient aussi dans l'éducation. Je devais leur obéir, etc., etc. Mais bon, c'est pas pareil que les parents. Les parents, ils ont vraiment cette mission non-stop. Et bon, bah, parfois, c'est pas facile à équilibrer avec ce qu'on voudrait partager à nos enfants.
Ah, c'est clair, j'ai deux ados, je garantis. Ils nous donnent vraiment On sait pourquoi on a des cheveux blancs.
Ouais.
Je te rejoins effectivement sur la complémentarité, cette de richesse que peut apporter les grands-parents quand on a le bonheur de les connaître et de pouvoir partager avec eux et tout ce qu'ils arrivent à nous donner en plus que nos parents.
Ouais. Et pour revenir à ta grand-mère, elle t'a baigné dans son univers pour la santé et donc elle t'a fait découvrir un monde merveilleux en complément de celui déjà entrouvert grâce aux guérisseurs et aux guérisseuses que tu rencontrais, c'est ça? Tu as même
Oui,
une
c'est
autre
ça.
anecdote, je crois, à nous partager.
Ah oui, c'est vrai, c'était. J'étais enfant, j'étais toute jeune, j'ai été mordue en Afrique par un serpent. Et le problème, c'est que je savais pas du tout de quel serpent il s'agissait, j'ai pas eu le temps de le voir, je l'ai juste senti. Donc je savais pas s'il
Pas
était
cool.
venimeux ou non, et j'ai couru voir ma mère tout de suite qui m'a emmenée au dispensaire français. Mais là, le médecin était bien embêté parce qu'ils n'avaient plus l'antidote du tout, rupture de stock, ils savaient plus quoi faire. Donc du coup, ma mère n'a pas trouvé d'autre solution, elle m'a emmenée au guérisseur du village africain à côté.
Donc ça a dû être une véritable épreuve en fait pour elle aussi, parce qu'une maman, ça cherche n'importe quelle solution pour le bien de son enfant.
Ah oui, c'est vrai, c'est quelque chose que je crois que personne n'avait jamais fait. Et du coup, moi je suis restée 3 jours entiers avec le guérisseur dans sa case. Alors là-bas, ça s'appelle des marabouts. Ils appellent ça comme ça, c'est le nom. Et pendant 3 jours, eh ben, ils faisaient des fumigations en permanence. Ils mettaient des plantes dans le feu. Et pour en faire transpirer, ils disaient que c'était transpirer le venin.
D'accord.
Et ils me faisaient des pansements, ça je me rappelle, avec des pierres noires qu'ils mettaient sur les points de morsure. Et ils enveloppaient ma cheville dans les feuilles de bananier. Et ils disaient que les pierres absorbaient le venin. Alors je ne sais pas vraiment ce que c'était que ces pierres et ce qu'ils faisaient. Surtout que je devais avoir, je crois, 8 ans, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, j'ai jamais eu de soucis suite à cette morsure.
Donc, en fait, c'est toute une science ce qu'il utilisait.
Oui, oui, bien sûr. C'est vrai que je suis souvent revenue voir ce marabout et il me racontait plein de choses. Il m'expliquait comment les arbres communiquaient entre eux, comment les animaux nous montraient le chemin à suivre quand on savait comprendre ce qu'ils disaient. Comment voir aussi les signes envoyés. Alors, ils appellent ça les dieux parce qu'ils en ont plusieurs.
Mais c'est clair que je pense que j'aurais été fascinée, hein. J'aurais adoré découvrir tout ça. Enfin bon, il n'est pas encore trop tard. Et tu peux nous en dire un petit peu plus du coup, parce que tu as une grande connaissance sur ce qu'on appelle le chamanisme de ce fait-là.
Oui, j'ai cette chance du coup, et c'est avec un plaisir que je peux la partager avec vous. Alors pour commencer, je vais te parler quand même un petit peu d'histoire.
D'accord.
Donc en fait, au XVIIe siècle, les Russes ont commencé à coloniser la Sibérie, et notamment la Sibérie orientale. Ils ont rencontré des individus qui affirmaient pouvoir entrer en communication avec les esprits.
D'accord.
Alors ces hommes, déjà, entre eux, ils s'appelaient les samans ou chamans, parce que ça s'écrit S-A-M-A-N ou S-H-A-M-A-N.
D'accord.
Les anthropologues découvrirent alors que les pratiques de ces guérisseurs étaient les mêmes que celles d'autres peuples et de nombreux peuples qu'on a sur la surface du globe.
Donc comme quoi, en fait, le monde est petit et qu'en étant ouvert d'esprit, on se rend compte que nous sommes tous reliés et pas si étrangers, entre guillemets, que ça, les uns avec les autres.
Oui, bien sûr. Et en plus, du coup, au milieu du XXe siècle, les anthropologues, du coup, ont désigné d'un mot général les guérisseurs venant de différentes régions du globe, alors qui étaient nommés avec des noms de dialectes des fois complètement imprononçables pour les simples occidentaux, alors qu'ils exprimaient les mêmes pratiques et la même signification.
Et du coup, tu peux nous expliquer un petit peu l'étymologie du mot chaman?
Oui, bien sûr. Le mot chaman, alors qu'il y a un E ou pas de E, c'est connu depuis le XVIIe siècle. Et ça a été introduit, en fait, par l'archiprêtre, alors je m'excuse pour la prononciation, Avakum Petrov Kondratiev.
D'accord.
Je ne suis pas douée en...
on peut comprendre.
Mais en fait, cet archiprêtre avait observé auprès des Tungus de Sibérie orientale, qui est un peuple là-bas, qui utilisait le mot saman, qui est en langue Evenki, c'est leur langue, qui signifie danser, remuer, bondir, s'agiter.
D'accord.
Et du coup, le chaman, c'est donc celui qui sait, celui qui bondit, qui s'agite.
D'accord.
Et en fait, il y a un autre anthropologue, lui suisse, qui s'appelait Alfred Métro, qui a utilisé la première fois cette étymologie sibérienne pour désigner les pieds. Ça s'écrit P-I-A-I. Ce sont des sorciers d'Amazonie qu'il était en train d'étudier.
D'accord.
Et en fait, constatant qu'il existait une cohérence entre ces chamans de Sibérie et ces sorciers d'Amazonie dans leur fonction de guérisseurs, ce qu'on appelle aussi les enchanteurs de gibier. Et du coup, il a introduit le terme chamanisme comme un nom général pour désigner une conduite, une technique, une fonction dans un groupe ethnique.
Et donc, c'est pour ça que le chaman est considéré comme un être complexe, en fait. C'est à la fois guérisseur, sorcier, prêtre, magicien, devin, même médium.
Oui, pour certains, il peut même être considéré comme possédé. Hein.
Ah, carrément, d'accord. Donc, on retrouve quand même un peu ici la peur avec les émotions dont nous parlait Marie-Pierre, je pense, les pensées limitantes et leurs conséquences.
Oui, en fait, c'est vrai qu'il existe une polyvalence impressionnante dans les différentes attributions des chamans. Et on le retrouve à travers le monde entier. Et le mot chaman, si le mot chaman, il provient de ces mots de sibérien. Et en fait, le chamanisme dans le monde remonte sûrement à la grecque antique et au chinois, hein, d'après les anthropologues.
Et donc, du coup, dans quel pays on peut rencontrer des chamans?
Ah, ben, il y en a un peu partout, en fait. Il y a le chaman chinois.
D'accord.
Alors, il est le précurseur du développement du taoïsme. Il connaissait les voyages qu'on appelle extatiques, c'est-à-dire qu'il emmenait au ciel où il rencontrait les dieux, les ancêtres, où il apprenait les remèdes médicaux.
D'accord.
Il était généralement aidé par des animaux, alors comme les dragons, les tigres ou les cerfs.
D'accord.
Et après, il y a les chamans de la Grèce antique.
Oui.
Enfin, ceux-là, ils sont quand même, depuis il y a longtemps, hein, c'était antérieur à Socrate. Ils étaient quand même très connus. Il y avait Aristée de Proconèse, Épiménide de Crète, Phérécide de Syros, Abaris de Syste et Hermotime de Clazomène. Alors, c'est,
oui, je t'avoue, je ne connais pas. Hein.
C'est vrai que voilà, c'est les gens qui ont l'habitude avec l'anthropologie, tout ça, ils les connaissent bien. Et en fait, c'était des chamans, des penseurs. Des chamans parce qu'ils parlaient de la sortie de soi, quand l'âme se libère du corps et se transporte en dehors.
D'accord.
Mais aussi des penseurs. Et les Grecs avaient été en contact avec le chamanisme dès 630 avant Jésus-Christ. Donc, ça, voilà. Ça date d'un petit moment. C'est après avoir colonisé la région de la mer Noire où vivaient les Scythes, qui avaient, eux, des chamans qui respiraient la fumée du chanvre cultivé dans la région et entraient en extase.
Et tu m'as aussi parlé des chamans scandinaves, donc eux aussi quittaient leur corps pour voyager où ils le désiraient. Je sais que chez nous, enfin donc en France, hein, on parle plutôt de voyage astral, enfin en France et dans les pays européens ou entre guillemets blancs. Mais en fait, ce sont juste des mots différents parce que dans notre monde soi-disant civilisé, enfin je veux dire, je trouve que c'est pas le terme qui correspond, mais je trouve pas ce qu'il faut dire à la place. Donc on est peut-être moins porté par ces pratiques déjà. Ben, parce qu'on court tout le temps, donc personne ne prend vraiment le temps de se reconnecter à son être intérieur. Enfin, en tout cas, elles sont plus rares que dans ces civilisations plus paisibles. Mais bon, personnellement, quand j'étais ado, j'ai mon homéopathe qui nous avait indiqué pratiquer facilement le voyage astral. Et il s'en servait notamment quand il était en coloc le soir, ou quand il était à l'étranger pour venir vérifier que tout allait bien chez lui, pour sa femme, ses enfants, alors qu'il était à des kilomètres d'eux, en fait. C'était super impressionnant.
Oui, c'est vrai qu'en France, on en parle peut-être moins librement par peur d'être jugé.
Ouais,
c'est
bah
une science
oui.
méconnue. Au sujet des chamans scandinaves, en fait, ils considéraient leurs voisins lapons comme des grands magiciens.
D'accord.
Parce que le chamanisme s'est très développé chez eux.
Mmh.
Et ils officiaient avec des tambours et des marteaux de corne.
Et tu m'as dit aussi qu'il y avait les chamans corses, les mazérous, c'est ça?
Oui, c'est ça, mazérous.
Et qu'en fait, bah, les chamans ont été connus sur tous les continents, que ce soit l'Amazonie, la Sibérie, en Arctique, dans les clans esquimaux, en Australie avec les chamans du peuple aborigène, en Amérique du Nord avec les sorciers des peuples indiens d'Amérique, qu'on les connaît bien quand même dans les films et tout ça. En Asie aussi, tu m'as dit, avec les Tatars, les Mongols, mais aussi au Népal, tu m'as parlé de la société coréenne et japonaise, et puis bien sûr, bon, bah, les chamans d'Afrique, puisque les sorciers sont omniprésents dans les tribus et la société africaine. Donc en fait, ils communiquent avec l'univers et leur rôle est prépondérant. Mais en Europe aussi, puisque les chamans européens sont des descendants des Scandinaves, si j'ai bien compris.
Tout à fait, c'est tout à fait ça. Et on les retrouve en Europe, notamment en Europe centrale, on retrouve des chamans qui communiquent avec les esprits des animaux, avec les esprits des plantes, qui utilisent des remèdes à base de plantes et de pierres pour soigner. Et leur rôle est aussi de protéger le clan de toute attaque potentielle.
D'accord. Et donc, du coup, tu peux nous en dire un peu plus sur leurs secrets, comment ils peuvent agir?
Bien sûr. Mais peut-être avant, faire un rapide tour d'horizon des différents domaines dans lesquels ils opèrent.
Oui, tu as raison. Mettre plutôt d'abord l'accent sur la diversité de leur domaine d'intervention et après sur la richesse et la spécificité de leur savoir.
Oui. Et en fait, les chamans, en communiquant avec les esprits, ils effectuent des rituels bien précis. Alors c'est vrai que ça variait d'une région à l'autre, mais on en garde quand même des caractéristiques assez communes d'une
D'accord.
région à l'autre. C'est-à-dire tout d'abord, ils traitaient certaines maladies. Donc le chaman devenait guérisseur du coup, à la
ouais.
fois utilisateur des dons de la nature parce qu'il utilisait les plantes, les herbes, des substances, et utilisateur des esprits aussi.
D'accord.
Après, il y a un attribut qui est moins connu, c'était celui de nommer un enfant.
Ah ouais.
C'était le chaman qui consultait les esprits et les augures afin que celui-ci délivre le nom de l'enfant.
D'accord.
Voilà. Il était aussi sollicité pour faire tomber la pluie.
On connaît, on a entendu parler. Ouais.
Dans les films, on l'entend souvent. Mais cette fonction est quand même devenue importante quand les tribus se sont sédentarisées et ont commencé à pratiquer l'agriculture.
Oui, c'est drôlement intéressant en fait, parce que quand on cherche à mieux connaître, ça permet de comprendre tout ça.
Oui. Et, certains chamans pouvaient aussi faire venir le gibier.
D'accord.
Alors ça répondait à un besoin essentiel hein, pour nourrir la tribu.
C'est
Et
sûr.
certains peuples ont longtemps conservé ces fonctions un peu primitives. Le climat et le territoire hostile ne leur laissant pas vraiment beaucoup de choix.
Oui, tu me disais aussi pour retrouver un objet perdu, je crois, ou même faire du tort à un ennemi, mais dans ce cas, je crois qu'il s'agissait de protéger la tribu menacée, ou de venger la disparition d'un guerrier. Là, c'est moins joli, quoi.
Oui, c'est différent, mais c'est vrai qu'à travers toutes les illustrations, on constate qu'en fait que le chamanisme est historiquement aussi âgé que les premières civilisations.
Oui.
Et on peut même considérer que les premiers hommes dans leur caverne pratiquaient déjà une forme de chamanisme de la chasse, puisqu'ils peignaient sur les parois des dessins d'animaux qu'ils allaient chasser après,
En
comme
fait,
s'ils les appelaient en fait.
je trouve ça passionnant parce que j'ai personnellement vu des réactions assez virulentes lors de mon investissement dans l'action du bien vivre ensemble. Je crois que j'en avais parlé au Collège des Pernons. Contre Olivier Claire, parce qu'il est le parrain du projet du bien vivre ensemble. Et il a été attaqué tout simplement pour être le traducteur des ouvrages de Miguel Ruiz, dont le livre le plus connu, c'est Les Quatre Accords Toltèques. Et cette virulence était due au seul fait que Miguel Ruiz est chaman. Donc j'ai trouvé ça complètement hallucinant d'obscurantisme dans notre monde soi-disant moderne, parce que ces livres, c'est vraiment des pépites pour de nombreuses personnes. Et bon, ben, en fait, j'étais choquée de ce sectarisme. En plus, c'était assez insidieux, c'était malveillant. Bref, ça me plaisait pas.
Oui, c'est vrai que c'est vraiment très malheureux parce que enfin, les quatre accords toltèques ou même d'autres ouvrages peuvent nous apporter énormément de choses, mais malheureusement, ce qui est pas connu ou mal connu fait très peur.
Mais en fait, c'est pour ça que j'ai plaisir à t'inviter à partager sur ce sujet, parce que je pense que connaître l'autre permet d'apaiser en vidant les peurs de leur substance et en intégrant de nouvelles connaissances, on se comprend mieux. Et ben, Marie-Pierre le disait le mois dernier, notre force est dans le groupe. Et je pense que nous sommes tous unis, donc faire du mal à l'autre, c'est se faire du mal indirectement, alors qu'au contraire, quand on soutient l'autre, si on l'aide à grandir, ben, on se grandit soi-même. Enfin, ça, c'est ma conviction, hein. Je veux dire, c'est personnel. Mais du coup, pour en revenir à notre sujet, on parle un petit peu des outils, entre guillemets, des chamans. Hein.
Oui, c'est vrai, on peut. Ouais, les pratiques chamaniques, en fait, c'est comme une relation avec les esprits et les différentes missions. Et donc, du coup, il leur fallait quand même quelques supports pour faire cette communication un peu particulière. Et le principal, c'était le jeûne. Donc, je précise le jeûne avec un accent grave, hein.
Oui.
Donc, qui existe sous différentes formes et qui fournit des résultats métaphysiques et psychologiques sur le corps et sur l'esprit.
Oui.
Donc,
On
non
va pas
seulement.
pouvoir développer complètement tout parce qu'après
D'accord.
on va être pris par le temps sur
D'accord.
l'émission, mais c'est clair qu'il y avait énormément de choses. Enfin, tu m'en as parlé, c'est vrai que
Oui,
sur
le
le
tambour, il y a plein de choses.
nettoyage, enfin,
Oui.
métaphysique, psychologique du corps et de l'esprit. Et donc, excuse-moi, je t'ai coupé. Donc, du coup.
Et il y avait aussi le tambour chamanique, voilà, qui servait aussi pour faire des transes. Et il y avait des substances aussi à base de plantes que les chamans utilisaient.
Et tu m'as dit aussi que dans le contexte des pratiques chamaniques, la croyance veut que toutes les plantes possèdent leur propre esprit, c'est ça? Et grâce à ces esprits, le chaman acquiert des pouvoirs.
Oui, c'est ça. Il y a en fait toutes sortes de plantes. Il y a la sauge, le tabac, le chakruna, le peyote. Bon, il y en a beaucoup, on va pas faire toute la liste, hein, qui font une espèce de sensation extatique, en fait.
D'accord, mais c'est vrai que ça sonne parfois un peu comme une musique, tous ces noms. Tu me disais que les plantes étaient par contre seulement utilisées pour leur aspect guérisseur.
Oui, il y a certaines plantes que je t'ai citées qui sont dites hallucinogènes, mais les chamans européens, eux, ne les utilisaient pas. Pour les transes, ils utilisaient seulement le tambour, donc ils utilisaient vraiment les plantes que pour le côté guérisseur.
D'accord.
Donc voilà, le chaman, en fait, ici, enfin, en Europe, c'est plus un guide spirituel, mais aussi un psychologue, un guérisseur pour chasser les mauvais esprits. Pour un chaman, le mot médecine, comme nous on l'entend, ça n'a pas du tout la même signification qu'en Occident, c'est complètement différent. Ça englobe la notion de guérisseur et de visionnaire.
D'accord.
Parce que, voilà, c'est avant d'être un médecin, c'est un intermédiaire, le chaman, entre le visible et l'invisible. Et pour un chaman, la spiritualité est vraiment essentielle. c'est vraiment une notion vraiment essentielle autour de laquelle gravitent toutes les autres, en fait.
Donc, en fait, en résumé, le chaman reflète en un seul mot une multitude de fonctions, que ce soit pour soigner avec les plantes, les pierres, pour protéger, pour nourrir avec le gibier qu'il attire, ou même interpréter les rêves et les visions, ou donner le nom au bébé dont tu parlais tout à l'heure.
Oui, chez les chamans indiens d'Amérique du Nord, tu as même l'homme sacré. C'est celui qui a le pouvoir de 6 autres hommes médecine reconnus chez eux.
D'accord.
Donc en fait, le chaman, c'est vraiment un homme assez secret avec une science qui est infinie.
Bah écoute, je suis désolée qu'on soit contraint par le temps, mais franchement, je te remercie pour ce partage de savoir qui nous ouvre de sacrés horizons. Et puis, bah, j'espère l'esprit, parce que je souhaite à chacun de poursuivre le voyage initié selon ses envies, parce que c'est vraiment un sujet passionnant.
C'est avec plaisir, Nathalie. Et puis après, sachez, voilà, je suis à votre écoute sur ma page Facebook, Rochesse Cécile, ou même sur mon mail, hein, rochessecile@gmail.com.
Donc, je te remercie beaucoup. Et puis, nous allons nous quitter sur cette note un petit peu féerique. Donc, je vous dis à bientôt à tous sur Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes. Très belle semaine à tous et à bientôt avec plaisir. Au revoir.
Au revoir.
Pussy Suleimanit, pussy e cielo mezzanit, e cielo mezzanit. Aman, aman, pussy e cielo mezzanit. Κουνάρα Μαρτίνε Πάρα, Τσέλου Ανακθέως Ουράνα, Ανακθέως Ουράνα. Αμάν, αμάν, Τσέλου Ανακθέως Ουράνα. Martine dita, cielo agremisisita, agremisisita. Aman, aman, cielo agremisisita. Cunara Martina treta, cielo avrà metà verteta, metà verteta. Aman, aman, cielo avrà metà thank you.